Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque.
Au micro, Michel Jas, Radio Alliance Plus, Théologie en liberté. Alors, on n'est pas au milieu de la bibliothèque, je ne range pas la bibliothèque, mais on est entouré par des livres, les livres de plusieurs théologiens. Et puis, j'ai face à moi un ami, un théologien, un pasteur actif dans la recherche intellectuelle et qui s'appelle Olivier Roux. Bonjour Olivier, heureux de fonctionner avec toi.
Bonjour Michel.
Alors, tu es un théologien amateur, c'est-à-dire que je crois que tu n'as pas voulu faire un doctorat en théologie, mais tu as toujours fait beaucoup de recherches intellectuelles autour de la théologie. Et dans ta famille, donc, tu étais prédestiné, j'ose dire, à la recherche intellectuelle, puisque tu es fils de pasteur et issu du méthodisme. Qu'est-ce que le méthodisme ?
Le méthodisme, c'est un mouvement de réveil en Angleterre au XVIIIe siècle. Et pour des raisons qui sont les leurs, les Anglais sont venus réveiller un peu le protestantisme français au XIXe siècle, en particulier dans la région de Nîmes. Et donc mon village est devenu, je ne sais pas s'il faut dire, à 50 ou 60% méthodiste.
Oui, ou même dans la Vonage.
À Caveyrac, oui.
À Caveyrac. Oui, je sais que la Vonage a été un des hauts lieux pour le méthodisme. Il y en a eu aussi des prédicateurs méthodistes dans les Cévennes.
Aussi, à Anduze, dans beaucoup d'autres villages.
Voilà. Et alors, en fait, beaucoup de protestants français aujourd'hui, surtout dans le Midi, avant d'être dans l'Église réformée, l'Église protestante unie, ont été de familles méthodistes. André Gounel, notre ami, son grand-père était pasteur de l'Église méthodiste à Nîmes.
Tout à fait.
Et lui a été un théologien reconnu, un théologien libéral à Montpellier.
Nous avons des grand-mères qui étaient sœurs.
Ah bon, voilà. Ah d'accord, tu es de la famille Gounel.
Non, je ne suis pas de la famille Gounel. Nos grands-mères étaient sœurs, c'est un accident de l'histoire.
Ah d'accord. Et en fait, donc, tu es fils de pasteur, mais méthodiste, je crois ton père a été missionnaire.
Eh bien oui, il a été baptisé André, comme le disciple qui devait annoncer, etc., l'évangile, voilà. Oui. Et alors il est parti en 1934, à la suite de sa sœur aînée d'ailleurs, au Dahomey de l'époque, le Bénin d'aujourd'hui.
Ah oui.
Et ensuite, il est allé en Côte d'Ivoire. Et alors là, je l'ai suivi dans les jupes de ma maman pendant toute mon enfance. Oui.
Et tu y es retourné après aussi, en Côte d'Ivoire.
J'avais grandi en Côte d'Ivoire, mes amis étaient en Côte d'Ivoire. Et un beau jour, le président de la jeune église de Côte d'Ivoire vient à Paris, à ce qui était encore la Société des missions évangéliques de Paris, le DEFAB d'aujourd'hui.
Oui.
Et dans le bureau de mon père où il travaillait, j'entre par accident pour poser une question à mon père, et il me dit « Tu ne veux pas venir travailler avec nous en Côte d'Ivoire ?»
Oui.
Alors je lui dis très volontiers, mais je partirai comme pasteur de l'Église et non pas comme missionnaire.
Ah voilà, oui, c'est un aspect toujours un peu rébussier de vouloir
C'est d'une grande banalité.
Proche du peuple et peuple de l'Église, avec pas mal de recherches intellectuelles, mais aussi proche de la base. Et en fait, donc, et ton père, est-ce que vous étiez dans la même famille que Hébert ? Moi, j'ai lu des livres d'Hébert Roux.
Oui. Alors, Hébert Roux n'était pas du tout parent. Des Roux, il y en a.
Ah oui.
Il y en a comme la cinquième roue du carrosse.
De Roux, oui.
Ils étaient très liés, je sais, c'était deux grands amis. Je crois qu'ils avaient fait leurs études ensemble.
Ah oui.
Ou une partie de leurs études ensemble.
Oui.
Hébert Roux avait été invité particulier du pape avec Kuhlmann.
Oui, à Vatican II.
Vatican II, oui.
Oui, ça a été un grand. Et moi, j'ai lu des livres sur l'écuménisme d'Hébert Roux.
Oui.
Voilà, mais en fait, c'est quand je lisais les livres d'Hébert Roux, je savais qu'il y avait un pasteur, Olivier Roux, toi, qui était dans la région de Nîmes. Et je me posais chaque fois la question de savoir de l'appartenance ou pas. L'homonymie est facile avec le nom Roux. Et puis alors, ton épouse a été enseignante et elle est devenue pasteur.
Mais c'est-à-dire qu'elle était d'abord... On s'est rencontrés à la faculté de théologie de Montpellier. Elle faisait une année, comme beaucoup d'Allemands à l'étranger, elle est tombée sur Montpellier.
Oui.
On s'est mariés, on est partis en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas être pasteur. Donc elle a fait des études pour être enseignante dans les lycées de la République française.
Oui.
Et quand elle a pris sa retraite, elle avait encore 5 ans devant elle, enfin les 5 ans que moi je devais faire pour arriver à ma retraite, elle a pris un poste, l'Église lui a confié un poste en Gardonnac.
En Gardonnac,
pendant
oui,
5 ans, voilà.
Ah donc, oui, alors que tu étais à Bagnoles.
J'étais à Bagnoles.
Voilà, d'accord, oui. Oui, donc dans la même consistoire, il y avait l'épouse et le mari.
Mais voilà.
Hildegarde et Olivier Roux.
Voilà.
Ah, mais c'est très bien. Et alors, en fait, donc oui, puis alors vous avez, comme paroisse, tu as été donc en Afrique plusieurs fois, en France, toujours dans la région nimoise, au sens large.
Mais j'avais connu l'Afrique au tout début, on était aumônier militaire en Algérie pendant 20 mois.
Ah oui.
Aumônier du contingent, évidemment. Et puis ensuite, je suis parti en Côte d'Ivoire pendant 5 ans, puis 7 ans. 7 ans au Bénin, le Dahomey qui est devenu le Bénin. Et un peu plus tard, on m'a demandé d'aller passer un an, comme route secours d'ailleurs, entre deux permanents en Guyane.
Ah oui, mais alors tu étais dans le cadre du DFAP, de la mission.
Oui, quand j'étais en Côte d'Ivoire et au Bénin, il y avait un accord depuis les origines
oui.
avec l'Église méthodiste d'Angleterre. C'est toute une histoire, je ne sais pas s'il faut en parler ici.
Ah oui, d'accord, oui.
On devait, après la guerre de 14-18, la Société des missions de Paris devait ouvrir ce qu'on appelait des champs missionnaires à l'époque, en Côte d'Ivoire.
Oui.
Et comme l'Allemagne a perdu la guerre de 14-18, on lui a demandé de quitter le Cameroun et le Togo, entre autres,
oui.
pour ce qui nous concerne. Et ça veut dire que les sociétés de mission allemandes devaient quitter ces territoires.
Ah oui, donc...
Donc les Allemands ont demandé à la SMEP de s'occuper du Cameroun et du Togo... Ce qui fait qu'on ne pouvait plus ouvrir ce nouveau poste missionnaire en Côte d'Ivoire.
D'accord.
Alors, la Société des missions de Paris a demandé aux Anglais, les méthodistes anglais, d'ouvrir le poste de Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Et le personnel francophone, on le trouvait au départ dans les églises anglo-saxonnes, comment on les appelle, les églises anglo-normandes, où on parlait encore couramment le français.
Ah oui, voilà. Ah oui, alors tout à l'heure, on a parlé d'André Gounel, le théologien bien connu, mais en fait, sa mère était originaire des îles anglo-normandes.
Le lien de parenté, d'ailleurs, part de là pour
ah,
moi.
Ah, voilà. Tu es un peu anglo-normand, alors.
Non, pas du tout. Et la deuxième poche de recrutement, c'était la région de Nîmes. Du département du Gard, sont partis au moins 10 missionnaires en Côte d'Ivoire et...
Mais alors qu'ils gardaient une identité réformée ou alors méthodiste
c'était... Non, c'était des méthodistes. Oui. Mais parmi eux, il y avait un réformé, je me suis toujours demandé pourquoi il partait là-bas. Il était parti là-bas, c'était le pasteur Edmond de Billy de La Salle.
Oui.
Et je me suis rendu compte un jour qu'il était le gendre du secrétaire général de la SMEP, qui oui. lui avait dit, mon cher gendre, votre place est en Côte d'Ivoire.
Ah oui.
Edmond de Billy.
Mais de toute façon, il y a eu ces deux églises qui étaient très proches, l'église méthodiste et l'église réformée, puisque à un moment de l'unité, en 1938, l'église méthodiste a fusionné avec l'église réformée de France.
90% ou plus des méthodistes sont entrés oui. dans l'union. Mon grand-père, qui était un prédicateur laïque...
En Vonage,
à Caverac, et son frère, qui était pasteur méthodiste, ont travaillé à l'union des églises méthodistes. Je crois même que le pasteur Buechner a demandé à mon grand-père, qui n'était rien, de prendre la parole à l'oratoire le jour de la cérémonie d'union.
Ah bon, ah d'accord. Oui, oui. Bon, il est resté une petite église méthodiste, maintenant qui a quasiment disparu dans le Midi.
Ah, c'est le cher pasteur Samuelian qui ne voulait pas de cette union, voilà, qui entraînait avec lui, dirait Broussier.
Oui, c'est ça, oui, qui refusaient les libéraux, la recherche critique.
Et ils ne sont plus, eux-mêmes, ils ne sont plus tout à fait... Méthodisme, ils ont le droit, ils sont devenus évangéliques.
Et c'est un peu dommage qu'à Nîmes, la chapelle de l'église méthodiste qui se trouvait à rue Saint-Dominique ait été démolie. Moi, je trouve que la ville de Nîmes aurait dû mettre un droit de présomption et puis racheter ce bâtiment. Parce qu'en fait, le méthodisme, au 19e siècle, a participé à beaucoup d'œuvres protestantes et a été très actif, et en particulier dans notre région. Cette chapelle, que j'ai connu, moi, quand j'étais enfant.
À côté de la chapelle, il y avait une pension de jeunes filles qui formait toutes les futures épouses de la Vonage en particulier.
Ah oui, oui. Et puis, alors, il y a eu l'institution qui est devenue l'école Marie Durand.
C'est ça que je parle.
Voilà, ah, c'est ça, oui, qui est devenue aujourd'hui une école protestante privée, mais à l'origine, c'était méthodiste. Voilà.
Et en Côte d'Ivoire, il y avait le pendant de cette pension Marie Durand pour former de jeunes filles... de l'église méthodiste, qui deviendront toutes filles de médecins, de ministres, etc. Ouais.
Et alors, moi, je me souviens que quand on se rencontrait lors des pastorales ou au synode, etc., tu étais un féru de la compréhension de l'aspect international de notre Église, aussi les liens entre mission, Église, différentes. Et alors, moi, qui étais pas de famille très pratiquante, je connaissais beaucoup moins le DEFAP, les missions, etc. En fait, je t'écoutais avec intérêt, admiration, mais j'étais un peu perdu dans toutes ces... En fait, donc aussi, tu es resté quand même très sensible aux questions du protestantisme africain. Et puis, les questions de rapport de force dans les églises, au moment où il y a des conflits en Afrique, etc. Tu prends par exemple des positions, je crois qu'il y a eu un schisme dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire.
Oui.
Et tu es resté partisan de l'ancienne forme de l'église méthodiste.
Bon, je réponds à ta première question, c'est pas que ça m'intéressait ou que ça m'intéressait pas, mais j'habitais dans les bâtiments de la société des missions où mon père était directeur de l'école qui formait les futurs missionnaires. Et en permanence, je voyais des pasteurs africains de tout le continent, des malgaches, etc., des Tahitiens, que l'Église, que nous ayons une présence dans une multitude de pays, ça me paraissait aller de soi.
Oui. En fait, oui, c'est vrai que c'est la ferveur méthodiste qui a été très missionnaire. Normalement, le calvinisme ancien était moins tourné vers la mission en dehors de l'Europe. Et c'est, les protestants se sont mis à faire des missions pour pas que les jésuites gagnent du terrain. Et donc, mais en fait, c'est plutôt l'orientation piétiste qui a voulu que les gens traversent le monde pour annoncer la bonne nouvelle.
C'est vrai, c'est plutôt les milieux évangéliques qui ont organisé, qui ont structuré la Société des Missions Évangéliques de Paris. C'est une des raisons pour lesquelles le théologien et docteur Schweitzer n'était pas parti avec la Société des Missions de Paris parce qu'il était un pasteur libéral.
Oui.
À côté d'être un grand médecin.
Oui. Et un grand théologien. Mais c'est vrai que son optique théologique était trop... Peut-être un peu comme la tienne aujourd'hui. Tu es très ouvert. Et en fait, quand est-ce que tu es passé donc, à l'Église réformée de France? Est-ce que c'était naturel, ça a été... Ah oui, mais il y avait 38. Il y avait l'unité entre les méthodistes et les...
Mon père est parti pasteur méthodiste. Et c'est un peu comme les astronautes... de l'URSS qui retombait sur la Terre, ils étaient en Russie. Mon père est parti méthodiste, il est rentré...
Dans l'Église réformée de
ERF,
France.
Parce qu'ils étaient ERF dans le cœur depuis longtemps.
Ah oui, d'accord, oui, je comprends très bien. Oui.
On attendait l'union, quoi.
Et alors, je me souviens que dans les synodes, dans les pastorales, tu t'exprimais beaucoup sur les questions en débat, les questions bibliques, et ça m'a toujours intéressé. En fait, tu nous parlais de quand tu étais étudiant à la faculté de théologie. On revient toujours à ça, puis alors les différents profs que tu as eus. Et je me souviens donc que tu parlais toujours des découvertes de Wilhelm Fischer.
Ah oui, les deux professeurs qui m'ont le plus marqué, c'est Hainaut. Et Fischer, oui, ça c'est vrai. J'ai beaucoup de reconnaissance.
Ah, tu as vu Hainaut aussi?
Ah oui, Hainaut.
Ah oui. Tu sais qu'il a écrit un article sur les cathares. Avant de travailler Luther, il avait travaillé les cathares. Enfin, c'est un autre sujet, on ne va pas parler du catharisme lors de cette émission. Mais alors, donc, tu parlais de Wilhelm Fischer.
Oui.
Et de sa découverte, bon, dans les textes, je crois, de Genèse, ou alors, en fait, il a découvert quelque chose qui est devenu caractéristique de la spiritualité protestante sur le plan du salut par la foi.
Mais c'est vrai, il insistait beaucoup sur les auditeurs peuvent le lire ou le relire s'ils veulent, le chapitre 15 de la Genèse où Wilhelm Fischer insistait sur le fait que la manière dont on nous raconte que nous avons une relation de foi avec Dieu... Ça se passe dans un songe d'Abraham. C'est pas une voix qui lui parle comme ça à l'heure du café, à midi, etc. Dans un songe, il entend une voix qui lui dit « Coupe des animaux en deux et passe au milieu d'eux ». C'était un rite d'alliance entre un suzerain et un petit autour de lui.
Oui.
Un rite d'alliance classique dans l'Antiquité dans ce coin de la Terre. Et ça voulait dire... Dieu fait alliance avec Abraham au cours d'un songe. Donc, c'est en se réveillant de ce songe qu'Abraham va prendre conscience que le Dieu auquel il dit avoir affaire est un Dieu dont on gère la relation en des termes de confiance plutôt que monétaire ou de peur ou de condition, etc.
Ah oui, donc il y a une évolution dans la compréhension théologique. Voilà. On passe d'une religion de la crainte à une religion de la confiance.
De la confiance. Et alors, ouais, ce qui est très beau, c'est que ça peut être le modèle des relations tout simplement parentales, ah oui, parents-enfants.
Voilà. Et alors, je sais aussi que tu, et ça m'avait intrigué, et depuis je l'ai travaillé, mais tu avais beaucoup parlé de la découverte chez l'apôtre Paul de la foi de Jésus-Christ, et non pas la foi en Jésus-Christ.
Il ne faut pas dire que c'est l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, parce que le génie de la langue grecque veut que la structure de la phrase en grec veuille dire les deux à la fois.
Oui.
Alors le traducteur français est obligé de choisir l'un ou l'autre, c'est dommage. Mais c'est la foi en Jésus ou la foi de... C'est comme quand on dit la peur de l'ennemi. Qui a peur, c'est toi ou c'est moi?
Ah oui, oui, bien sûr.
C'est exactement la même chose.
Oui, oui.
Donc, théologiquement, maintenant, c'est une grande banalité par ailleurs. Tous les collègues sont d'accord avec ça. C'est Jésus qui met sa confiance en moi et en retour, je peux mettre ma confiance en lui.
Ah oui, tout à fait. Mais je crois que c'est quand même très important parce que finalement, dans le public français moyen, on sous-entend que les chrétiens, c'est des gens qui croient ceci, cela, au sujet de Jésus-Christ. Alors que c'est quelque chose qu'on reçoit finalement.
Mais c'est vrai qu'il y a un malentendu sur le terme foi. Il ne s'agit pas de croire, comme je crois que l'autobus passe à 10h15. Il s'agit de faire confiance.
Oui.
C'est un régime de confiance. D'ailleurs, si on modulait un peu nos relations humaines sur ce régime-là, ça marcherait peut-être mieux. Faire confiance, à fond perdu, évidemment.
Oui, oui, oui.
Avec
oui.
Le risque que ça ne marche pas, qu'on échoue.
Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et alors, voilà. Et puis, alors, après, j'étais rencontré plusieurs fois autour de Christian Bernard Renfou et de notre... professeur commun et ami. Mais je crois que moi, j'ai connu Christian Bernard Renfou en 78, 79. Et puis après, quand j'étais jeune pasteur, j'allais aux sessions bibliques qu'il organisait à Montpellier.
Oui.
Mais je crois que tu le connaissais depuis la faculté de théologie.
On a fait avec 2 années de décalage, parce qu'il est beaucoup plus jeune, on a fait nos études de théologie ensemble.
Oui.
Mais ensuite, il est devenu professeur de français latin grec dans les lycées de la République.
Oui.
Et puis, il s'est fait repérer par un spécialiste du Nouveau Testament catholique belge qui lui a confié une recherche sur l'épître de Jacques.
Ah oui.
Voilà. Et alors, confier une recherche sur l'épître de Jacques à un protestant, c'est assez amusant. Donc, il a renouvelé la compréhension qu'on peut avoir de l'épître de Jacques, qui est une épître excessivement savante dans sa construction.
Oui.
Que les exégètes d'aujourd'hui datent des années 80, c'est-à-dire d'une dizaine d'années après la chute du Temple,
oui,
mais qu'en fou date, je crois avec raison, de 10 ans avant la chute du Temple, des années 60. Donc c'est à peine 4 ou 5 ans après que Paul ait développé son système théologique fondamental pour nous, la christologie, le salut par la foi.
Oui, oui.
Et donc Jacques prend en compte l'apôtre Paul, mais il n'est pas fondamental comme il le deviendra pour Augustin ou pour Luther.
Ah oui, c'est ça, oui. C'est une autre tendance théologique qui se rapproche du judéo-christianisme et de Matthieu dans un certain sens.
Jacques est un judéo-chrétien, oui.
Oui, 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 oui. Ouais. Oui, alors en fait, donc, tu as travaillé avec Christian Bernard Renfou, qui a été professeur de critique textuelle, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des manuscrits grecs du Nouveau Testament.
Oui.
Et puis qui finalement a une vision un peu nouvelle et un peu désécurisante pour les professeurs de Nouveau Testament, parce que lui travaille non pas à partir du texte reçu, mais des manuscrits. Et moi, ça m'a toujours impressionné, c'est Christian Bernard Renfou connaît l'Alexandrinus, le Vaticanus, les papyries, il arrive un peu à jongler là-dessus, puis il fait un apparat critique très, très savant qui permet de reconstituer un peu la préhistoire de nos évangiles. Théologie en liberté, au micro Michel Jas. Je suis donc avec mon ami Olivier Roux. On parle de la recherche intellectuelle, recherche biblique, le passé pastoral dans nos églises. Et on était en train d'évoquer Christian Bernard Anfou, qui habite Montpellier, mais qui est venu souvent à Nîmes et qui est un spécialiste des manuscrits grecs du Nouveau Testament, spécialiste donc qui connaît non pas seulement le texte reçu, imprimé par les maisons d'édition pour les professeurs de théologie, mais vraiment les manuscrits qui ont été découverts, les onctios, les papyri. Et en fait, je sais que tous les deux, Olivier, on est passionné par ces travaux de ce savant, Christian Bernard Anfou.
Oui, Christian Anfou s'est vu confier, après une étude sur l'épître de Jacques, il s'est vu confier un travail sur le codex de Bèze. Alors, il s'appelle codex de Bèze parce que les protestants qui avaient attaqué la ville de Lyon pendant les guerres de religion sont tombés sur la chapelle Saint-Irénée où étaient déposés pieusement les ossements de Saint-Irénée.
Oui.
Et à côté des ossements de Saint-Irénée, il y avait un manuscrit biblique. Là, les protestants se sont dit ça, il ne faut pas le brûler. Donc, ils l'ont apporté à 200 km de là, à Genève, à Théodore de Bèze, le successeur de Jean Calvin.
Ah oui, d'où le nom
Codex de Bèze. Voilà. Et Théodore de Bèze l'a lu en grec consciencieusement. Il a vu qu'il y avait d'énormes différences avec le texte reçu du XVIe siècle.
Ça l'a peut-être un peu dérangé.
Ça l'a dérangé. Il s'est dit, c'est un texte précieux, on ne peut pas le brûler, mais le laisser en Europe, il sera détruit par une guerre de religion, etc. Oui. Il faut le déposer dans un endroit de paix. Alors il est allé, il a offert à Cambridge, où on peut le consulter encore aujourd'hui,
oui.
En tout cas sur Internet, Cambridge Internet, voilà.
Oui. Et en fait, oui, alors donc ce manuscrit a été conservé, mais peu étudié avant Christian Bernard Anfou, notre contemporain.
Voilà, alors c'est un texte dont le support date du 4e, 5e siècle.
Oui, matériellement.
Mais le texte remonte aux années 120. Et ça, c'est la grande découverte de Christian Anfou, qui n'est pas acceptée par les exégètes catholiques, protestants, par personne, par très peu de personnes qui affirment, moi je dis qu'ils prétendent, que le texte originel serait celui des années 180-200 qu'on a trouvé sur des papyrus égyptiens. Bon, ça fait très ancien. Le matériau, là, est le plus ancien. Mais le texte que supporte ce matériau très ancien...
Il remonterait à Saint-Irénée, quoi. Enfin, celui qu'on appelle le...
Là tu reparles du codex
de Bèze.
Moi, je suis en train de parler
oui.
du texte
ah, oui, oui,
qu'on
sûr.
A sur les papyrus oui. égyptiens. Ce texte date des années 180-200. Et il est déjà une simplification d'un texte antérieur des années 120. Christian Anfou le date à 120. Et une preuve irréfutable que ce texte est très ancien, c'est qu'on le trouve, et lui seul, chez les premiers pères de l'Église. Les premiers pères de l'Église ne connaissent pas le texte des années 200.
D'accord.
Okay. Ça devrait suffire, mais ça ne convainc pas.
Et alors, ce qui est vraiment curieux, c'est que dans le codex de Bèze, et puis dans ce texte donc, ancien cité par les pères de l'Église, qui remonte à 120, je crois qu'il a été écrit à Smyrne.
À Smyrne, par Polycarpe.
Et en fait, les évangiles se présentent sous un autre ordre que celui qu'on a dans nos Bibles. Au lieu d'avoir Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a Matthieu, Jean, Luc, et en dernier, Marc.
Oui, alors il y a une raison très précise à ça, c'est qu'il fallait, aux yeux de Polycarpe, il fallait structurer les quatre évangiles, qui sont un ensemble de quatre moments. C'est un évangile en quatre moments, c'est pas quatre évangiles séparés.
Oui.
Et ce n'est que vers les années 160-180, 200, par là, qu'on séparera les quatre évangiles, et qu'on les mettra dans l'ordre que tu as cité, que tout le monde connaît,
Matthieu, Marc, Jean. Oui.
Voilà.
Mais en fait, moi vraiment, ça m'a convaincu de ces dernières années, parce que tu sais, j'ai pas mal travaillé François d'Assise et les manuscrits de François d'Assise. Et en fait, le grand spécialiste, Jacques Dallarin, aujourd'hui, qui a dirigé les études franciscaines, etc., a finalement montré que les textes anciens de François d'Assise aussi sont constitués des corpus et avec des symétries qui existent d'un texte à l'autre qui sont à côté. Écoute, Olivier, vraiment, on est très intéressé par tout ce que tu peux nous dire. On va se retrouver dans une autre émission autour de Christian Bernard Anfou et du Codex de Bèze. À bientôt.
À bientôt.
Partagez vos événements sur agenda@radioalliance-plus.fr.